des gens et pas devant un écran, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, je sais que Michael va essayer le direct, mais sinon, ça sera différé. Le direct sera différé si ça ne marche pas à cause de la DSL. Alors, il a été rappelé que c'est Pentecôte aujourd'hui, le dimanche de Pentecôte. Pentecôte, ça vient 10 jours après l'Ascension et l'Ascension vient 40 jours après Pâques. Donc voilà. Alors, il est question de l'Ascension et de la Pentecôte dans 2 Rois, chapitre 2, si vous voulez bien tourner avec moi. 2 Rois, chapitre 2. Alors, c'est étonnant de dire que la Pentecôte et l'Ascension sont là, mais c'est là présent de manière prophétique, de manière extraordinairement prophétique d'ailleurs. On va lire quelques versets tout à l'heure. Peut-être, José, si tu viens, juste lire quelques versets. Ça va? Ok. D'accord, comme ça, on va situer le... Donc, tu peux venir lire le début du chapitre, du verset 1. Ben voilà, ça va nous donner une idée du verset 1 jusqu'au verset 9. Ça va, 2 Rois, chapitre 2. Verset 1-9. Oui, comme ça, c'est bien.
Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils du prophète qui était avec elle, sortir vers Élisée et lui dire, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais. Aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais. Aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roulant et en frappa les eaux, qui se partagèrent sans élan. Merci. Ils passèrent tous deux sec à sec.
Merci, merci beaucoup. Voilà, il y a trois endroits que le Seigneur a demandé à Élie de passer. Alors étrangement, c'est dans le sens inverse de ce qu'on enseigne d'habitude, puisqu'il a fait le chemin arrière du peuple d'Israël quand le peuple d'Israël est rentré à la terre promise. Il a d'abord été envoyé à Bethel. C'est le premier endroit où ils ont quitté Gilgal. Dieu les a envoyés à Bethel. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe à Bethel? Déjà, Bethel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, c'est intéressant qu'aujourd'hui, on retourne ici, mais ici, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est un bâtiment qui sert à rassembler la maison de Dieu, n'est-ce pas? Que les chrétiens, les frères et sœurs se rassemblent et c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Mais là, à Bethel, il s'est passé beaucoup d'événements. Il s'est passé un premier événement avec Abraham, où Dieu s'est révélé à Abraham près de Bethel. C'était pas encore Bethel, mais ça a été appelé Bethel par Jacob plus tard. Mais Dieu s'est révélé à Abraham et lui a parlé, s'est montré à lui, alors que Abraham ne connaissait pas vraiment le Seigneur. Il avait obéi, et parce qu'il avait obéi, Dieu s'est révélé. Et c'est son petit-fils, des années après, qui a appelé ce lieu Bethel, la maison de Dieu. D'accord? Sans savoir que son grand-père, probablement, avait été béni, avait été appelé là, avait été touché par Dieu là. Jacob, donc le petit-fils, là, il a passé un moment extraordinaire à Bethel, puisqu'il a dormi. Il a dormi dans cette ville qui s'appelait Luz, et pendant la nuit, il a eu une vision. Et Dieu s'est révélé à lui d'une manière extraordinaire avec cette vision de cette échelle qui montait au ciel, avec les anges qui montaient et qui descendaient. Et il a dit, quand il s'est réveillé, il a dit, certainement le Seigneur est là. Il y avait à la fois quelque chose d'extraordinaire, mais aussi quelque chose de redoutable dans ce que dit Jacob. Parce que dans la présence de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire, mais il y a quelque chose de redoutable aussi. Vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu juste comme ça, tel que vous êtes, comme si vous approchiez d'un ami, de quelqu'un, d'un copain. On a essayé de faire ça dans certains milieux, de banaliser, de familiariser la relation que le chrétien avait avec Dieu, mais il n'en est pas ainsi. En tout cas, avec le vrai Dieu, on ne peut pas se présenter comme ça, sans être touché par lui d'une manière profonde en ce qui concerne notre péché. En tout cas, là, Jacob a construit un autel. C'est très frappant que son grand-père avait été touché, avait été interpellé par Dieu dans ce même endroit. Je pense que Jacob ne savait pas. C'est Jacob qui l'a appelé ce lieu Bethel. Et s'il avait su que son grand-père avait été béni, je suis sûr que ça aurait été quelque chose encore plus exaltant pour lui. Mais en tout cas, il a reconnu et il a fait un vœu à l'Éternel, il a fait un engagement à l'Éternel à cet endroit-là, parce que Dieu s'était révélé à Bethel. Est-ce que le vœu que nous avons fait à l'Éternel, nous l'avons et nous le respectons encore aujourd'hui? Ou est-ce que nous l'avons oublié? Beaucoup d'entre nous avons fait un vœu par le baptême, ou un ensemble de vœux. Et combien de fois on oublie? Mais Jacob a promis et il a tenu cette promesse. Il a tenu cette promesse toute sa vie. Et c'est quelque chose qui est sérieux, qui est solennel. On ne peut pas s'engager avec le Seigneur et ensuite oublier qu'on a fait cet engagement. Ou bien le mettre de côté. Combien de fois on l'a fait, combien de fois je l'ai fait dans ma vie. Il ne s'est jamais béni par Dieu. C'est là où on commence à se détourner, où on commence à s'éloigner du Seigneur et où on risque à perdre la communion, la relation avec le Seigneur. Il a amené là, à la maison de Dieu, à Bethel, enfin cette ville qui était appelée Bethel, il a amené Élie. Et Élisée ne voulait pas quitter son maître. Et dans ce chapitre 2 que José a lu en partie, c'est remarquable de voir comment la structure du chapitre est faite. C'est comme un film, vous savez, les films qui sont de très bonne qualité, généralement, on commence par la fin. On met juste, donc on voit vers où on va aller, et ensuite on revient au début, et tout le film, c'est l'explication de la fin que vous avez vue au début. Et donc le chapitre 6 nous dit la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est Élie qui s'en va, qui est pris au ciel. Et il ne meurt pas, donc Élie. Il est enlevé au ciel de manière glorieuse. Et Élisée qui est témoin de ça. Et Élisée avait demandé à Élie de recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire de recevoir l'Esprit qui était sur Élie. Élie lui a dit, parce que tu m'as suivi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et il a dit que je reçoive la double portion du Saint-Esprit que tu avais sur toi. Élie était un homme extraordinaire, rempli de l'Esprit de Dieu, dans l'Ancien Testament déjà. On verra la différence entre Élie et Élisée et les fils de prophètes. Vous remarquez qu'ils ne sont pas appelés des prophètes, ils sont appelés des fils de prophètes et ils sont casse-pieds. Et je crois que souvent dans nos églises, nous n'avons que des fils de prophètes qui sont casse-pieds quand ils prophétisent, plutôt que des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui prophétisent remplis du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre très au sérieux, parce que Élisée désirait réellement, et c'est ça sa caractéristique, il désirait recevoir. Et il a demandé une double portion. Parce qu'il ne voulait pas se contenter de ce qu'il avait vu. Il savait que Dieu pouvait donner plus, oui, prophétiser, que l'Esprit pouvait être répandu avec abondance, et que l'Esprit était là pour donner la plénitude et pour que ça déborde. Ce n'est pas limité à une quantité, c'est quelque chose que le Seigneur veut donner en abondance. Et Élie lui a dit, tu demandes quelque chose de difficile. Et si vous demandez le Saint-Esprit ce matin de manière réelle, vous savez ce que Jésus dit ici, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit ou donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Donc si vous cherchez vraiment le Saint-Esprit, vous le recevrez. Vous recevrez l'Esprit de Dieu réellement dans votre vie. Mais il faut le chercher. Élisée le chercher. Et c'est quelque chose de difficile. Et Élie a dit, écoute, si tu me vois quand je suis enlevé au ciel, tu recevras ce que tu as demandé. Alors Élisée s'est attaché à cette parole et il a suivi Élie de manière fidèle et extraordinaire. Il a écouté cette parole et l'a mise en pratique. Dieu lui a demandé quelque chose de spécifique, il l'a fait. Il a suivi Élie jusqu'à la fin. Et Élie l'a mis à l'épreuve. Vous serez mis à l'épreuve. Si vous demandez le Saint-Esprit, Dieu va voir si vous êtes sincères. Il connaît vos cœurs, comme il a été dit, mais il y aura des épreuves, il y aura des mises à l'épreuve. Et Élie l'a mis à l'épreuve. Il lui a dit, écoute, on quitte Gilgal, maintenant je vais à Bethel. Reste là. Je m'en vais, je dois aller à Bethel. Et il a dit, non, je te suis. Je ne vais pas rater la bénédiction pour des kilomètres à pied. Vous savez qu'Élie, c'était un marcheur. Il avait marché beaucoup, n'est-ce pas, dans le désert. Il savait, il avait lutté contre Jézabel, contre Acab. C'est un homme qui avait de l'endurance. Élisée, peut-être beaucoup moins. Et Élie a dit, moi, je dois aller à Bethel. Le Seigneur m'envoie à Bethel. Et il a dit, moi, je viens avec toi. Comme Ruth a dit à sa belle-mère Naomi, mon peuple sera ton peuple, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Elle ne voulait pas quitter sa belle-mère. Cet homme, donc, Élisée a suivi. Et arrivé à Bethel, les fils de prophètes viennent voir Élisée en disant, tu sais que ton maître sera enlevé. Oui, je le sais, taisez-vous. Combien il y a de prophéties, de choses que tout le monde savent. On entend avec le coronavirus, où on voit sur Internet des gens qui disent « je l'avais prophétisé ». C'est les seuls qui savent qu'ils avaient prophétisé parce que personne n'avait remarqué qu'ils avaient prophétisé ça. Mais « je l'avais prophétisé ». Ils essayent de reprendre des propos qu'ils ont dit pour pouvoir montrer que c'était une prophétie. Mais Élisée savait reconnaître ce que c'était un vrai prophète de Dieu. Il savait que c'était Élie qui devait suivre et pas les fils de prophètes. Et voilà qu'ils sont à Bethel, la maison de Dieu. Et pourquoi Dieu l'a envoyé là? C'est assez intéressant. Et je vais essayer de prendre ça comme une analogie pour nous. Il nous envoie, il nous fait d'abord découvrir ou redécouvrir ce que c'est la maison de Dieu. C'est dans le plan du Seigneur pour nous transformer, pour nous donner le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que Emmanuel a dites tout à l'heure qui sont des choses que je vais dire aussi, donc sachez que le Seigneur insiste là-dessus. Il nous amène à la maison de Dieu pour nous parler, pour faire l'état aussi de notre maison de Dieu. Comment est la maison de Dieu dans nos vies? Enfin, quel est l'état de notre vie spirituelle? Quel est l'état de la maison de Dieu? Un des prophètes, des petits prophètes que vous avez à la fin de l'Ancien Testament, Dieu dit, vous habitez dans vos maisons lambrissées, qui était donc un signe de richesse, de bon état, et vous délaissez la maison de l'Éternel. Vous n'êtes pas soucieux pour le temple de l'Éternel. C'était le temple physique. Mais bien sûr, ici, il s'agit pour nous d'une analogie avec la vie spirituelle. Quelle est l'importance que nous donnons à la vie spirituelle? Quelle est l'importance de notre réaction lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement? Est-ce qu'on se dit, Seigneur, je ne vais pas laisser ce soir passer, je vais faire ce que tu me demandes, je vais te suivre, je ne veux pas perdre ton Esprit Saint, je veux le recevoir. Vous savez, dans le psaume 51, David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David savait qu'on pouvait perdre le Saint-Esprit. Bien sûr qu'on peut le perdre. Vous savez que dans Romains 8, il est dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'on peut perdre cette appartenance à Christ. En tout cas, Élisée a été amené là. C'est là où, Élisée, tu dois passer d'abord par la maison de Dieu. Fais l'examen de la maison de Dieu. Et aujourd'hui, dans vos vies, dans ma vie, il faut qu'on fasse l'examen de la maison de Dieu. Qu'en est-il? Et de mettre en règle des choses. C'est ce qui est primordial. On peut avoir des grands projets pour l'Église. On peut avoir des choses géniales qui sont organisées. On peut avoir même des réunions. Il y a des spécialistes de ça pour faire des réunions où il y a plein de conversions. Plein de gens qui répondent. Mais si l'Esprit de Dieu n'a pas travaillé les cœurs, les vies entières des hommes et des femmes qui constituent l'Église, si le Saint-Esprit n'a pas travaillé chez les anciens aussi en premier, eh bien, tout travail, toute œuvre, toute organisation est vaine. C'est du temps perdu. C'est comme les fils de prophètes qui pouvaient juste dire des choses que Élisée savait déjà. Après Bethel, Élie dit, mais à nouveau à l'épreuve, Élisée, il lui dit, voilà, le Seigneur m'envoie à Jéricho. Reste ici. Non, non, je te suivrai. Vous voyez, il désobéit à son maître pour la première fois. Et le Seigneur, quelquefois, nous met à l'épreuve. Et il nous dit quelque chose pour voir si on va le suivre, si on va quand même obéir à ce à quoi on s'était engagé avant. Il envoie à Jéricho. Et pourquoi Jéricho? Jéricho, c'est l'endroit où Dieu a enlevé la muraille de manière miraculeuse, probablement parce que la muraille était inaltérable ou difficile à atteindre, et en tout cas Israël ne pouvait pas la faire tomber. C'était une muraille extraordinairement épaisse et forte. Et le Seigneur envoie là, et je suis sûr que ce matin il nous renvoie aussi à Jéricho. Mais peut-être qu'il nous envoie à Jéricho pas pour nous souvenir de la muraille qui est tombée, pas pour nous montrer que le Seigneur a fait un miracle pour nous dans la chute des forteresses de notre vie, mais pour nous montrer la forteresse qui est encore là. Parce que peut-être que vous êtes en train de chercher Bethel, la maison de Dieu, d'être la maison de Dieu, mais vous n'êtes pas passé par Jéricho, vous n'êtes pas passé par l'expérience, l'étape de Jéricho où la forteresse de votre vie doit être détruite par l'Esprit Saint, pas par les hommes. Pas par le raisonnement, pas par le travail personnel en disant « je vais faire un travail sur moi-même ». Ça me fait peur quand les gens disent ça. J'ai besoin de faire un travail sur moi-même. On a besoin que l'Esprit Saint travaille nos vies. Et les forteresses de nos vies, les lieux forts, comme il a été dit ce matin déjà, doivent tomber par l'Esprit Saint. Vous prenez votre domaine où vous êtes le plus fort et vous demandez, Seigneur, fais tomber cette muraille. Alors les gens vont me dire, oui, mais c'est choquant que tu dis ça, que tu dises ça, parce que le Seigneur quelquefois utilise nos talents, mais bien sûr, mais il n'utilise pas quelque chose qui est naturel. Il utilise quelque chose qui est rempli du Saint-Esprit. Et si il veut détruire la muraille, c'est pour reconstruire quelque chose d'extraordinaire. Josué, comme je l'ai déjà dit dans d'autres prédications, Josué a dit, celui qui rebâtira la muraille de Jéricho, le rebâtira au prix de son fils aîné, et il posera les portes au prix de son fils cadet. C'est ce qui s'est passé plus tard, longtemps après, quand quelqu'un a décidé de reconstruire Jéricho. Mais c'est ce qui s'est passé avec Dieu lorsqu'il a reconstruit la forteresse de votre vie, il l'a fait au prix de son fils aîné, Jésus. Qui est son fils cadet aussi, qui est vous. Quand vous venez au Seigneur, vous êtes la fille et fils cadet, n'est-ce pas? Et vous mourrez à vous-même. Donc Jéricho, est-ce qu'on est passé par Jéricho? Est-ce que ce matin, on peut aller à Jéricho spirituellement et dire, voilà, je sais que Dieu a fait une œuvre merveilleuse, que cette muraille maintenant qui m'entoure, c'est la muraille du Saint-Esprit, c'est la muraille que le Saint-Esprit a reconstruite au prix du sang de Jésus. Et je me souviens de la forteresse que j'avais. La forteresse, ça peut être votre caractère, comme il a été dit. Ça peut être votre histoire, votre héritage. Ça peut être vos points forts. Le Seigneur n'a pas besoin de vos points forts. Le Seigneur n'a pas besoin de votre capacité à gérer. Votre curriculum vitae vis-à-vis du Seigneur ne vaut rien. Comme je vous ai dit, on a eu quelqu'un qui a candidaté pour être pasteur. On ne sait pas comment il a su que l'Église n'avait pas de pasteur. Et on ne cherchait pas du tout un pasteur parce qu'on le connaît. Et j'espère que c'est Jésus, le pasteur de l'Église. Son curriculum vitae, d'ailleurs, vous savez, né dans une étable, charpentier, fils de charpentier, a aidé son père pendant quelques années à être charpentier, sans domicile fixe, sans revenu, pas de RSA. Voilà. Curriculum vitae de Jésus. Ce candidat pasteur, il nous a sorti, mais alors, des diplômes incroyables, en quantité, hein, et des formations, des choses extraordinaires. Oh là, ça faisait peur. Donc voilà, Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de leaders. Les leaders doivent avoir la forteresse de leur leadership brisée pour que l'Esprit Saint puisse construire la muraille. En tout cas, le Seigneur a amené Élie et Élisée à cet endroit-là, et je suis sûr qu'il nous amène là ce matin. Est-ce qu'on a connu ce miracle des forteresses de nos vies qui sont tombées? Élie, après quelque temps à Jéricho, a dit, voilà, je vais devoir partir, le Seigneur m'appelle au Jourdain. Toi, reste ici. Non, je ne vais pas me faire avoir. Je te suivrai partout. C'est l'engagement que j'ai pris, donc je te suis. Et il a suivi Élie au Jourdain. Dans sa tête, il devait se dire, mais pourquoi on fait ce chemin inverse? Tout le message de l'Évangile, c'est de quitter le désert pour passer par le Jourdain, puis aller dans la terre promise, puis conquérir Jéricho, et ensuite Bethel. Mais là, c'est le sens inverse. Le vent souffle où il veut, et on ne sait d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est rempli de l'Esprit. N'est-ce pas, l'Esprit de Dieu nous dirige là où il nous dirige. Et ils ont obéi. Le Jourdain, ça symbolise la repentance. On est très facilement à dire, voilà, dans mon témoignage, je peux dire, je sais qu'il y a des années, je me suis repenti. Et je suis couvert par la repentance. Mais est-ce qu'on s'est repenti aujourd'hui? Est-ce qu'on s'est repenti récemment? Vous allez dire, mais je ne sais pas de quoi me repentir. Eh bien, premièrement, commencez par vous repentir du fait que vous ne savez pas pourquoi vous avez à vous repentir. Parce que c'est ça le problème, c'est que souvent, on est immunisé, on a tellement confronté le péché que maintenant, le péché, ça ne nous fait plus d'effet, n'est-ce pas? On a besoin de se repentir. Et le Jourdain, c'est là où Jean-Baptiste faisait le baptême de repentance. C'est là où un certain Naaman confiait à Élisée, devait se repentir en plongeant cette fois dans le Jourdain. Je crois que c'était cette fois. En tout cas, c'était des eaux sales, c'était des eaux dans lesquelles on n'avait pas envie de se baigner, et c'est là que le grand chef militaire Naaman a dû se plonger cette fois, il a dû être baptisé. Est-ce que ce matin on est prêt à être baptisé dans l'humiliation, dans le fait de se repentir devant Dieu, de dire « je suis pécheur, je suis pécheresse, j'ai besoin du Saint-Esprit ». Vous allez me dire « non, non, ils n'ont pas été baptisés, ils ne sont pas allés dans l'eau, eux, ils ont eu un miracle, la mer qui s'est... » Oui, la même expérience que le peuple d'Israël a eue. Ils ont pu traverser à sec, mais c'était un symbole du passage de ce Jourdain qui symbolise la repentance. Et ils sont arrivés donc de l'autre côté du Jourdain. Alors il y avait des tribus d'Israël qui étaient restées là. Le Seigneur les a amenés là. Et je vais suggérer pourquoi. Parce que de l'autre côté, il y avait sur une montagne Moïse qui était décédé depuis longtemps et le Seigneur l'avait caché sur cette montagne. Élie devait rejoindre son père d'une manière miraculeuse. Et je pense que, d'une certaine façon, Dieu réunissait sur la montagne les deux hommes, ou disons à presque au même endroit les deux hommes, qui allaient réapparaître sur la montagne de transfiguration plus tard avec Jésus. Est-ce que ce matin, on veut être transformé? On a lu ce verset que j'allais lire. On va regarder, c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Le dernier verset, un merveilleux verset, 2 Corinthiens 3, verset 18. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Et j'entends Norman dire « transfiguré », parce que le terme grec, c'est « transfiguré ». Nous sommes transfigurés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur Jésus, l'Esprit. C'est là, quand Jésus a été transfiguré sur le monde de la transfiguration, il y avait Élie et il y avait Moïse à côté de lui. Et parce que Élisée a été fidèle et il a suivi son maître, vous savez, c'est pas être, on va pas au ciel, on reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'on s'est donné au Seigneur il y a 20 ans. En disant, Seigneur, je te rappelle que je me suis donné dans une réunion il y a 20 ans. On reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on passe par la Bethel, parce qu'on passe par Jéricho, parce qu'on passe par le Jourdain, et parce qu'on va vers cette expérience de la transfiguration, où nous sommes renouvelés à son image de gloire en gloire, lorsque nous sommes transfigurés de gloire en gloire à son image. Et Élisée a suivi son maître Élie jusqu'au bout. Et il a vu l'ascension, il a vu son maître monter au ciel, comme Jésus, notre maître, est monté au ciel. Et parce que notre maître Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Et Élisée, à ce moment-là, a reçu le Saint-Esprit qu'il désirait. Il a pris le manteau de son maître Élie, il l'a revêtu, et c'était symbolique d'être revêtu de l'Esprit, n'est-ce pas ? On est appelé à être revêtu de l'Esprit et dans Ésaïe chapitre 11, vous voyez que Jésus est présenté comme étant revêtu de l'Esprit de Dieu qui reposait sur lui. Est-ce que notre Maître Jésus, on est prêt à le suivre ou qu'il nous amène ce matin, ou qu'il nous demande d'aller? Est-ce qu'on va dire « Seigneur, je veux te suivre » Pas « je vais te suivre ». Ça me fait frémir quand les gens disent je te suivrai partout, dans toutes circonstances. On entend Simon-Pierre dire ça. Et quelque temps après, pas longtemps après, le reniant. Je crois que tous ceux qui ont dit ça ont finalement chuté. Tous ceux qui m'ont dit, voilà, moi je n'abandonnerai pas, après tout ce que le Seigneur m'a fait, je n'abandonnerai jamais. Je crois qu'ils sont égarés, pas forcément chutés définitivement, mais Dieu leur a montré que ce n'est pas ça. L'attitude, c'est « Seigneur, je veux te suivre, je veux te voir monter au ciel parce que je sais que c'est parce que tu es monté au ciel que j'ai reçu l'Esprit. Je veux recevoir l'Esprit de Dieu. Je veux recevoir ce matin l'Esprit. » Est-ce qu'on est passé par la maison de Dieu? Est-ce qu'on est passé par Jéricho où les forteresses de nos vies sont tombées? Est-ce qu'on est passé par le Jourdain de la repentance, de l'humiliation, où on a renoncé à notre statut pour recevoir l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on est transfiguré de gloire en gloire avec Jésus? Que Dieu nous aide, que ce ne soit pas juste des paroles, mais la réalité. Qu'on ne soit pas comme les fils de prophètes. Les fils de prophètes, quand Élie est monté au ciel, ils sont venus voir Élisée, ils ont dit, ton maître, il est monté au ciel. Il a disparu. Est-ce que tu veux qu'on fasse des recherches? Élisée en avait marre. Il a dit, ouais, allez-y, si ça vous amuse. Et donc, ils ont cherché et ils sont venus dire après à Élisée, on a cherché, on ne l'a pas trouvé. Ils cherchaient Élie, qui n'était pas là. Élisée cherchait le Saint-Esprit, qu'il a reçu, parce qu'il cherchait vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de moi? C'est à nous de répondre devant le Seigneur. Voilà, que Dieu nous bénisse ensemble.